Merci Manuela et je passe la parole à Anne-Christine Taylor, l'Amérique dans le structuralisme.
Dans l'introduction au numéro de l'Homme sur l'Amazonie, que Philippe Descola et moi-même avions coordonné dans les années 90, nous nous étions laissés aller à écrire que le structuralisme marchait bien en Amérique des basses terres parce que les Amérindiens étaient spontanément structuralistes. Je ne renie pas cette intuition, mais il me semble aujourd'hui qu'elle devrait se formuler à l'inverse. Le structuralisme marche en Amérique parce qu'il est spontanément amérindien. C'est du moins la lecture, évidemment très intéressée, que je voudrais vous soumettre ici, en examinant de façon nécessairement très sommaire les relations particulières que le structuralisme de Claude Lévi-Strauss entretient avec le monde amérindien et du coup avec l'ethnologie américaniste. Lévi-Strauss a dit lui-même que son orientation américaniste était le fruit d'un pur hasard, le fameux coup de téléphone qui l'a amené à prendre un poste à Sao Paulo. Or, en s'installant au Brésil et en commençant à étudier les populations indigènes de ce pays, Claude Lévi-Strauss s'installait du même coup dans ce qui était à l'époque, il faut bien le dire, la plus archaïque des ethnologies régionales, tant sur le plan des connaissances accumulées que sur le plan de ses propositions théoriques. Il faut se rappeler qu'au début des années 30, l'Amazonie et ses populations indigènes figuraient à peine sur la carte de la discipline. Comme le rappelle par exemple Charles Wagley, dans les manuels d'enseignement américains, toutes les sociétés du bassin amazonien et du littoral étaient regroupées sous le vague label « Indiens de l'ère du manioc ». Et Murdoch, en 1951, soit après la publication du Handbook of South American Indians, disait encore que l'ethnographie amazoniste se caractérisait, je le cite, « by a degree of inadequacy extreme even for South America ». Pourquoi, dans ces conditions, le plus novateur, le plus théoricien des anthropologues du XXe siècle est-il resté fidèle à l'américanisme ? Claude Lévi-Strauss lui-même a apporté plusieurs éléments de réponse à cette question, notamment dans ses entretiens avec Didier Héribon. Il aimait, dit-il, le côté rétro de la sous-discipline. Il aimait les creusets normes qui marquaient la connaissance ethnographique et historique des sociétés de basse terre, propices donc à la spéculation contrôlée et à l'élaboration d'amples hypothèses. Il aimait le type de fieldwork qu'on y pratiquait, même s'il en reconnaissait les limites, terrain extensif plutôt qu'intensif, et proche encore de la pratique de collecte de données des grands voyageurs naturalistes du XIXe siècle. Il évoque également son goût pour les paysages américains, dont l'on chante l'échelle démesurée, la précarité et la dimension réduite de ces établissements humains, en dehors des grandes villes, ces caractéristiques qui donnent aux voyageurs le sentiment de remonter dans le temps vers un état du monde encore proche de ses origines. Bref, l'Amérique du Sud et l'américanisme des années 30 et 40 offraient à Lévi-Strauss un continent scientifique parfaitement ajusté à sa sensibilité, à raison du style vieillot des études qu'on y menait, de l'espace qu'il offrait à l'imagination, enfin et surtout, en raison de la qualité particulière d'altérité que le jeu combiné de la nature, de l'histoire et de la science conférait aux populations amérindiennes. Or, il est remarquable que l'un des ingrédients importants de cette différence parfaite des Indiens, comme on parle en musique d'un accord parfait, est justement une relation particulière à la temporalité. Lévi-Strauss est fasciné par les marques du passé dans le présent. Et il souligne lui-même cet aspect de sa personnalité intellectuelle en évoquant ce qu'il appelle son quichotisme, son désir obsédant de retrouver le passé dans le présent, je le cite. De fait, on repère bien, en lisant Triste Tropique et en regardant les photos de Saudades do Brasil, les univers culturels qui ont fait vibrer le plus fortement sa sensibilité et son imagination anthropologique. Ce sont ceux qui témoignent visiblement à la fois d'une tragique érosion par l'histoire et d'une fidélité héroïque à la tradition, configuration illustrée de manière exemplaire par les Borroo, les Kaduveo, les Nambikwara, etc. Il y a dans cette béance entre présent et passé, entre plénitude passée et déchéance incarnée par ces sociétés-là, justement, une forme de pathos à laquelle Claude Lévi-Strauss est particulièrement sensible. Et l'on devine qu'elle alimente son dégoût maintes fois exprimé à l'égard du fétichisme du progrès et du changement irréfléchi et compulsif typique de notre propre univers de vie. Il n'est guère surprenant, dans ces conditions, que Lévi-Strauss revienne si souvent tout au long de son œuvre à cet épisode du passé si fatalement crucial pour le monde amérindien, celui de la première rencontre à la fin du XVe et au début du XVIe siècle entre les Européens et les indigènes de l'Amérique. La valeur symbolique de cette scène primale dans la pensée de l'anthropologue s'explique par deux raisons étroitement liées. D'une part, elle est le paradigme d'une rencontre ratée, dans la mesure où les Européens n'ont vu que ce qu'ils ont reconnu et se sont montrés incapables, exception faite de quelques individus d'exception comme Montaigne, de prendre la mesure de l'altérité américaine. On sait que Lévi-Strauss s'est plu à imaginer une autre issue à ce grand malentendu historique, à réécrire l'histoire dans le sens d'un premier contact fécond au lieu d'être létal. D'autre part, l'histoire de la conquête ibérique est pour Lévi-Strauss le révélateur par excellence d'une courbure particulière des cultures amérindiennes dont il n'a cessé tout au long de son œuvre à chercher la théorisation. Je veux parler de cette ouverture à l'autre, l'expression est évidemment de lui, caractéristique de la manière amérindienne de poser sa relation à l'altérité. Les pages de Triste Tropique dédiées aux spéculations croisées des insulaires caribéens sur la nature humaine ou divine des corps ibériques et des Espagnols sur la nature humaine ou animale des Indiens témoignent à la fois du statut de cette scène primale dans la pensée de Lévi-Strauss et de la perception par l'anthropologue d'une inflexion particulière, sui generis, des systèmes de représentation et de vie amérindien. Cela dit, on voit Claude Lévi-Strauss en chercher une définition en termes ethnologiques dès les articles de 1943 sur guerre et commerce en Amérique du Sud ou sur la relation entre beaux-frères chez les Indiens du Brésil. Il poursuit l'exploration de cette courbure amérindienne dans ses écrits des années 50 sur le dualisme, déjà mentionné, puis dans les années 70 dans ses leçons au collège sur les études Borroo et sur le lien entre cannibalisme et travestissement. Et il aborde enfin de front la question de l'ouverture à l'autre dans le livre qui clôt l'immense chantier des mythologiques, Histoire de Lynx. Là aussi, on revient à un ouvrage qui a été au cœur de beaucoup des discussions de ce matin. C'est là qu'il évoque le dualisme en perpétuel déséquilibre des Amérindiens opposé à la passion de l'identique qui, selon lui, caractérise la pensée occidentale. Bref, on sent bien que la fidélité de Lévi-Strauss à l'américanisme s'ancre dans quelque chose qui va au-delà de son attachement ironique à l'aspect vieillot de la sous-discipline, au-delà même de ce quichotisme qui le pousse à chercher toujours le passé dans le présent, selon une configuration incarné de façon paradigmatique par les sociétés indigènes des basses-terres. Les Amérindiens jouent un rôle discret mais fondamental dans son œuvre, même celle la plus éloignée en apparence des matériaux ethnographiques américains. L'attraction qu'ils exercent sur la pensée de Lévi-Strauss est liée à leur exact ajustement, à l'orientation à la fois esthétique et éthique du savant, par leur manière de s'inscrire dans le flux du temps, par leur fidélité obstinée à une tradition centrée sur l'élan vers le non-identique, antithèse absolue du monde occidental obnubilé par le changement et la haine de ce qui ne lui ressemble pas. Cette indianisation de l'imagination scientifique de Lévi-Strauss a bien évidemment des effets sur la théorisation qu'il propose de divers phénomènes sociologiques ou culturels, même quand il avance des hypothèses de portée très générale. Ainsi, et pour ne prendre qu'un exemple, la théorie de l'alliance élaborée dans les structures élémentaires de la parenté est en partie, me semble-t-il, une théorie amérindienne de l'affinité et plus largement du lien social. Cela dit, l'inflexion américaine de la pensée de Lévi-Strauss est, bien que puissante, voilée et même en partie souterraine. Et cela explique le rapport compliqué entre l'œuvre de Lévi-Strauss et la communauté scientifique américaniste. De fait, cette relation se développe longtemps sur le registre du malentendu. Il faut se rappeler tout d'abord qu'après les articles sur le dualisme, le dernier publié en 1956, Lévi-Strauss ne consacre plus d'analyse technique à des questions de sociologie indienne, même s'il y revient dans certains des cours des années 70. Par ailleurs, si l'expérience brésilienne de Lévi-Strauss est très présente dans la philosophie implicite des structures élémentaires, sans doute aussi d'ailleurs dans les deux livres de la période proprement structuraliste, pour ainsi dire, de Claude Lévi-Strauss, à savoir le totémisme et la pensée sauvage, en revanche, l'ethnographie amazoniste ne l'est guère, faute de pouvoir offrir à cette époque des données assez riches et précises pour alimenter les besoins comparatistes du savant. Du coup, les hypothèses très suggestives sur le rôle de l'affinité dans la cosmopolitique amérindienne ont beaucoup tardé à ensemencer les études de parenté consacrées aux sociétés indigènes des basses-terres. Bref, la quasi-absence de références explicites aux spécificités culturelles du monde amérindien dans les premiers livres de Claude Lévi-Strauss jusqu'en 1964, date de publication du premier tome des mythologiques, a conduit nombre de spécialistes à négliger les pistes ouvertes par Lévi-Strauss, faute de reconnaître les réalités amérindiennes cachées derrière les formulations théoriques du savant. Par ailleurs, on sait les quiproquos engendrés par l'appréhension de la méthode structurale par l'anthropologie américaniste anglo-saxonne, malentendu ancré dans une confusion entre une véritable modélisation structuraliste et la simple saisie descriptive schématique de caractère formel de la théorie sociologique indigène telle qu'il se manifeste dans l'organisation sociale et spatiale, notamment, par exemple, des groupes du Brésil central. Enfin, et pour compliquer encore l'affaire, nombre de groupes amazoniens, notamment de l'ère guyanaise et de la région occidentale de l'Amazonie, paraissaient échapper à l'approche structuraliste, faute d'exhiber dans leur organisation ces jeux de position binaires, diamétrales, qui rendaient les sociétés du Brésil central superficiellement structuralo-compatibles, pour ainsi dire, et du coup, seule leur mythologie semblait apte à une approche de type structuraliste. Ainsi, en dépit du lien profond, quasiment organique, entre la pensée de Claude Lévi-Strauss et le monde culturel amérindien, l'américanisme reste jusque dans les années 70, voire jusqu'à la fin de celle-ci, en partie en porte-à-faux ou en retard sur les apports de Lévi-Strauss. Cet américanisme oscille en somme entre un faux structuralisme, un structuralisme à portée restreinte, limité au traitement de la mythologie, enfin une simple absence de structuralisme ou surdité à ce qu'il pouvait apporter. Il y a cependant une autre raison, plus profonde, me semble-t-il, au déphasage relatif entre l'inspiration amérindienne de Lévi-Strauss et la manière dont l'américanisme l'a longtemps appréhendé, ou plutôt échoué à appréhender. Lévi-Strauss aperçut très tôt un trait essentiel de ce que nous appellerions aujourd'hui les ontologies amérindiennes. Et il a analysé avec puissance les effets ou les manifestations de cette passion indienne pour l'ouverture à l'autre, dont il a si souvent parlé. Toutefois, il n'a jamais défini très précisément le statut qu'il convenait d'accorder à cette inflexion. La raison en est claire, me semble-t-il. D'une part, Claude Lévi-Strauss a toujours fui les formulations qu'on pourrait interpréter en termes culturalistes, ouvertes donc à une appréhension substantiviste des faits culturels. D'autre part, le dualisme en perpétuel déséquilibre entrait mal dans un cadre dont on pourrait penser qu'il serait éventuellement réservé dans la théorie structuraliste de Lévi-Strauss pour ce niveau de structure, celui de l'ordre des ordres. Un cadre dont on sait qu'il est resté en fait comme un horizon ultime et à la vérité inatteignable de l'analyse structurale d'un ensemble social, notion au demeurant abandonnée, semble-t-il, par Lévi-Strauss, puisqu'il n'en parle plus guère, à partir des années 70. De toute façon, l'ouverture à l'autre est, dans l'œuvre de Lévi-Strauss, quelque chose de trop concret et sensible pour être assimilé à un ordre des ordres. C'est quelque chose qui correspond à une perception esthético-morale immédiate, davantage qu'à une intelligibilité issue d'une modélisation de modélisation structurale. Bref, l'ouverture à l'autre n'est pas au bout de l'analyse, elle est plutôt à son origine. Du coup, la question de savoir que faire de l'intuition américaine de Lévi-Strauss, intuition qui accroche le savant au monde amérindien, cette question-là reste ouverte. C'est que le plan où s'ancre ce que Lévi-Strauss appelle le dualisme en perpétuel déséquilibre est bien celui de l'ontologie, un plan qui n'a pas vraiment droit de cité dans le structuralisme. L'ouverture à l'autre hante les caves et les couloirs de cet imposant édifice, sans cependant trouver réellement sa place dans la théorie explicite. On le sait, la situation de l'américanisme, en particulier de l'anthropologie des sociétés de Basse-Terre, a complètement changé depuis une vingtaine d'années. Ce champ d'étude s'est converti de backwater de la discipline qu'il était en l'une de ses frontières vives. Ses travaux sont désormais jugés pertinents pour l'ensemble de la discipline. Ses théories s'exportent bien au-delà du continent américain. Or, il me semble assez clair que le décollage de l'américanisme coïncide avec le moment où les spécialistes de ces terres ont commencé enfin à prendre à bras le corps la question de la passion amérindienne de la différence, en s'écartant de la lettre du structuralisme pour rester plus fidèle à l'inspiration même de Lévi-Strauss. Toute une génération, voire plusieurs, d'ethnologues brésiliens, français, anglais, s'est lancée dans cette révision critique de l'œuvre de Lévi-Strauss en explorant toutes les implications pour une compréhension de la sociabilité amérindienne, de sa relation à l'histoire et à l'altérité, bref, de l'économie politique des mondes animistes, de la critique des fondements naturalistes des sciences sociales. Et il n'est donc guère surprenant que les débats les plus vifs dans l'américanisme aujourd'hui portent justement sur la formulation la plus adéquate de ce à quoi renvoie l'intuition du dualisme en perpétuel déséquilibre. S'agit-il là d'un trait commun à tous les systèmes animistes, tels que les définit Philippe Descola, avec certaines particularités américaines contingentes, ou s'agit-il bien d'une spécificité amérindienne marquant aussi bien les cosmologies de l'Amazonie que celles, par exemple, de la Mésoamérique, du monde andin, sans parler évidemment des sociétés indigènes d'Amérique du Nord. Et si ce l'est, comment en rendre compte sans verser dans un macroculturalisme transcendantal? Ce qui est certain, c'est que la référence à l'œuvre de Claude Lévi-Strauss est récurrente dans cette vague de travaux et que l'influence de sa pensée sur l'américanisme, paradoxalement, semble croître de jour en jour. Ainsi, l'américanisme paraît avoir enfin rattrapé l'œuvre de Lévi-Strauss. Mieux, c'est dans cet américanisme renouvelé, me semble-t-il, que se forme aujourd'hui, dans une large mesure, une part importante de la postérité du structuralisme, c'est-à-dire sa continuation. Je vous remercie pour votre attention.